n'était rien. Oui, bah oui. Ami de la Terre, de Gaïa, qui nous a accueillis il y a 2024 ans.
Ça commence fort.
Je pas. Moi, je pense au branding. Ami. La conf sur l'espace, t'as plein de gens de passionnés qui vont venir, ils vont entendre ça, ils vont se dire, bon, ok.
C'est la pas route première phrase, c'est...
On va parler Star Wars.
La première phrase, c'est ami de Terria, ami de Gaïa. Non, mais c'est exceptionnel. Mais...
On refait, là, donc.
Non, ben bah, non, on a commencé, là.
Non, non.
Ça a commencé, ça a commencé. Non, là, ça a commencé pour le deuxième, bien sûr. On est très heureux. Alors, je dis plus que c'est le mercredi.
Bah, on est en semaine.
On est très heureux de vous accueillir en semaine. Parce que bon, c'est vrai que la livraison, on n'a pas Amazon Prime, hein, j'ai envie de vous dire. Bon. Donc ça nous coûte un petit billet. Donc cette semaine, énorme émission. Énorme émission. Puisqu'on inaugure la deuxième salve.
Sur l'orthophonie, tu sais. Oui,
on inaugure la deuxième salve de la conve. Avec une conve exceptionnelle cette semaine qui est dédiée à l'espace.
Et ouais.
Non, mais là, c'est énorme. C'est mon thème préféré.
Mais délimitons le sujet.
Mais justement, on va pouvoir poser des questions.
Délimitons grâce... cette chose non délimitée.
Exactement.
On va pouvoir délimiter le sujet grâce à nos intervenants de la semaine qui ont été particulièrement méticuleusement choisis.
Oui.
On a
sur les gens qui étaient présents le matin même.
Non, pas du tout, non. C'est la production qui a choisi.
Ah ouais,
c'est moi. Et donc on a les intervenants qu'on mérite. Parce que nous avons la chance d'avoir deux grands témoins cette semaine.
Oh waouh.
Deux
par,
grands
par
témoins.
Par la taille seulement, par deux la taille grands seulement.
On a deux grands témoins et on champs. A trois individus qui sont en appui du débat. Donc déjà, le premier grand témoin, c'est Alexandre Paquet.
Bonjour à tous.
Parce que Alexandre, c'est un énorme fan d'espace.
Fan d'espace.
Ah, c'est vrai. Ouais. Mais le Renault,
c'est vrai.
Le ouais. Renault. Hein.
C'est une très bonne voiture.
T'as été au salon de l'auto la dernière fois, tu nous as dit que c'était incroyable. Ah.
Voilà, vous l'avez utilisé, vous ne pouvez plus la refaire de toute couleur. Bah oui, la carte de prison, c'est une seule fois. Hein. le grand témoin Alexandre Paquet, parce qu'il est fan d'espace.
Fan j'adore. D'espace, j'ai fait une thèse dessus, faut bien dire. Bah ouais.
Ah, tu thèses.
Ah, je thèse.
C'est un gros taiseur.
Un énorme taiseur.
Un gros taiseur. Bravo à toi de cette passion qui te consume et qui va nous un petit peu nous toucher cette semaine.
Ah, avec plaisir.
Je le sens très fort. Deuxième grand témoin, vous allez comprendre pourquoi.
Maxime et sa petite étoile.
Non. Raphaël.
Ouais. J'ai très peur. Ouais.
Raphaël, grand témoin parce que...
C'est sa première conve.
C'est sa première conve déjà.
Déjà, c'est vrai.
Et de deux, moi j'ai très envie de parler espace et religion.
Oui, avec grand plaisir.
Parce que c'est ça qui me fait kiffer.
Avec grand plaisir.
Et donc ça va être un angle important de cette émission.
Et moi comme j'ai un doctorat en théologie,
bah oui.
En bouddhiste bien sûr.
Bah oui. Donc, t'as le boukistan, ouais non. Y'a rien.
Non, mais là c'est indigent là.
Tu veux un Dijon? J'ai un petit calva.
Tu viens de Dijon, moi aussi.
Heureusement qu'à la base c'était on est sérieux, pas de mal.
Tu viens de Dijon, moi je viens de Lille.
Non, y a mais, pas alors, un mot sur ensuite, l'espace encore.
Oui. Et ensuite on a trois appuis. On a un appui un peu la tête dans les étoiles. Maxime.
Qu'on appellera la bonne pomme d'appui.
Voilà. Maxime, il est là. Oh. Voilà, c'est vraiment genre... je regarde
les chiffres, les faits, voilà, les sciences. Faits,
les lettres aussi.
C'est ça. On a la personne qui est capable de polémiquer sur tout. Lucas.
Oui.
Qui va même s'embrouiller avec E.T. dans un instant.
je vais lui rentrer dedans.
C'est exceptionnel.
Ce qu'il a fait à ce gamin. Tu sais, à ce bicycle.
Le vélo.
À un moment, tu prends pas vélo comme ça, quoi.
Même pas sur la piste de cyclable. et voilà que je t'envole.
Oh, bah mon vélo.
Et que je te passe les feux rouges.
Voilà.
C'est dingue, quoi.
Donc, il va s'embrouiller avec E.T. dans un instant. Et on a notre grand témoin aussi de l'espace.
Qui va, je pense, en fait, me couper pour rectifier à chaque fois que je vais avoir une affirmation qui sera complètement à côté de la plaque.
Oui, c'est l'autre Alexandre. Bonsoir.
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 Qui est expert aussi de l'espace. Non, mais franchement, on a...
Do you come from Uranus?
Yes.
Personally?
Yes.
You're a Uranus specialist. Non, mais...
Le synthé sur BFM.
Uranus specialist.
Sur tous les anneaux.
Uranus! Justement, on va écouter tout de suite un peu de musique. Uranus, la chanson avec de Lady Gaga, tu vois. Uranus,
non,
tu
c'est
sais
Venus, la chanson. Je crois.
Bah oui, mais elle dit Uranus
dedans. D'accord.
Donc,
il y a du David Bowie qui arrive dans une demi-heure, hein, vous emmerdez pas.
Vous savez ce que c'est la conve. Tout est prétexte à mettre des chansons que j'aime. Donc,
bientôt
donc,
un gold.
Donc là, on parle, et après, de temps en temps, c'est un kiff.
Dans un quart d'heure, soin.
Iggy Pop, hein.
Absolument. Iggy Pop. Absolument.
Donc là, on écoute Venus. Un petit bout de Vénus de Lady Gaga, parce que c'est les planètes évidemment.
Ah, les
et on se retrouve juste après pour la première partie
astres.
De la conf sur, le, sur l'espace avec espace et religion. Ah,
ah les
on
astres.
Commence fort. La conve sur l'espace, nous sommes de retour avec nos cinq intervenants. Et le premier thème va être direct. Est-ce que vous pensez que l'espace, dans sa dimension actuelle, hein, a révolutionné la religion telle qu'on l'entend?
La phrase est forte et géniale.
Bah
l'espace
oui.
dans cette dimension actuelle.
Bah
s'il
oui.
y a un truc dans l'histoire dont on
qui
ne connaît pas la dimension. Si, justement, ça bouge tout le temps.
Mais
si. Même quand tu fais une vague, il ne comprend pas.
Mais, non, mais si, ça a
mais
bougé.
C'est, mais
bah,
c'est une,
ça a bougé.
C'est une question qui est très intéressante. Je considère que si on découvre de la vie. De la vie en dehors de la planète Terre, je pense que ça remettrait en cause pas mal de choses, notamment des, les préconçus vétérotestamentaires qu'on a.
Ah, tu penses vraiment que
oui, ah, totalement.
Ça changerait le...
Alors, alors, pas chez les catholiques, on en avait parlé.
Comment ça?
Mais à la conf sur les aliens, j'avais dit que l'Église catholique a affirmé officiellement qu'elle envisageait la vie sur d'autres planètes et que ça ne remettait pas en cause les évangiles.
Okay.
On est d'accord, mais en vrai... Quand le commencement, c'est quoi? Dieu créa le monde en 7 jours.
Il y a 2024
jours,
ans.
À peu près.
Mais j'ai peur de dire une connerie que tout de suite après, il y a plein d'auditeurs
mais
qui vont dire qu'est-ce qu'il raconte cet enculé là.
Et donc au commencement.
Si t'es pas sûr, tu dis à mon sens.
Mais c'est toujours comme ça, c'est toujours à mon
il
sens.
Il me semble que.
Ou visiblement. Il marche très bien, crois-moi.
C'est vrai que le fait que Dieu ait créé la Terre en 7 jours n'est pas exclusif du fait qu'il ait pu créer d'autres choses.
Mais aujourd'hui,
choses
avec
dans
les syndicats, il pourrait pas. Hein.
Non, mais en vrai, dans la Torah, est-ce qu'il parle de Terre ou est-ce qu'il parle d'univers déjà?
Il parle de l'univers.
Voilà, donc déjà, ils ont c'est comme l'islam. Ils ont déjà en tête
bien
entre
sûr,
guillemets les choses, les astres, etc.
Mais pourquoi dès le début alors ils ont pensé à l'univers et pas l'Église catholique?
Oui, comment t'expliques qu'ils y aient pensé il y a 5000
ans? Oui.
On pouvait pas savoir qu'il y avait des étoiles il y a 5000 ans en vrai.
On les voyait, mais
il suffit quand même de lever la tête.
Oui,
ma thèse préférée c'est l'erreur de traduction.
Non, mais pourquoi est-ce qu'une religion a pris à bras le corps l'espace avant les autres? C'est ça qui est intéressant.
Parce qu'on a toujours eu peur de l'inconnu, je pense, et qu'il n'y a pas de plus bel inconnu quand tu lèves les yeux et que tu vois le ciel étoilé, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe là-bas?
Non, mais par exemple dans la religion égyptienne antique, ils parlent déjà de l'espace.
J'adore.
Ah oui, c'est vrai.
Oui,
c'est
et
vrai.
Le Ra
ah bah oui, je suis con.
Tous les soirs, Ra se couche, donc le soleil se couche et traverse l'espace, combat le chaos le chaos noir, si tu veux, une sorte d'antimatière.
Ah, c'est ça, le coucher du soleil, c'est ça.
Le coucher du soleil, c'est Ra qui traverse sur une barque. L'autre côté, donc, il est dans le noir complet et il combat les forces du chaos représentées par Apophis ou Apep, donc le grand serpent du chaos qui veut tout manger et qui veut que tout redevienne chaotique, noir et désordonné.
Et Vincent Bolloré, en gros.
Voilà, le grand méchant. Et il y a tous les morts bien, un peu comme le Valhalla.
Ah, donc il y a
tout.
Déjà ce système-là, en
il
gros.
Il y a déjà un
c'est
peu ce système-là.
En fait,
hein. Mais ça a beaucoup évolué parce que, tu vois, je dis souvent, mais la religion égyptienne, il y en a eu 15 parce qu'ils ont tellement eu 5000 ans d'histoire,
en fait,
ça n'a jamais été la même chose. Mais eux, ils avaient vraiment pensé, par exemple, une de leurs cosmogénèses, donc de leur mythe de la création, c'est...
Attends, je fais une parenthèse. Toutes les religions polythéistes ou monothéistes ont une théorie sur la création de l'univers.
Bien sûr, ouais.
C'est très simple.
On parle de cosmogénèse et une cosmologie.
On parlait de mythologie égyptienne, mais dans la mythologie grecque, la plupart des dieux ont des noms de planètes.
T'as raison.
Jupiter, Arès.
Je fais très vite. Dans la mythologie égyptienne,
Mars, pardon.
Dans la mythologie égyptienne, un des trucs, c'est qu'en gros, t'as Atum, le verbe, qui se constitue de lui-même, qui émerge de lui-même, ça fait un peu Big Bang, mm-hmm. qui d'un coup décide de créer et la Terre et le ciel. Mm-hmm. Et alors, du coup, Nout et Geb, donc Nout la nuit, le ciel étoilé, et Geb, la Terre, se séparent. Ils se séparent, mais il y a du sperme entre les deux, ça crée plein de dieux, d'étoiles, tout, de machin à chaque fois.
Ça y est, et c'est après, on dit que Netflix n'a plus de scénario, enfin je veux dire.
Et c'est la même chose dans la mythologie grecque avec t'as Eros Thanatos qui est Nyx qui émerge comme ça du chaos, mm-hmm. et ensuite bah t'as Gaïa et t'as Uranos le ciel, et à chaque fois c'est pareil, Gaïa. Tu as le sperme qui crée des trucs. Et
toujours d'ailleurs.
Oui, toujours.
Ça a l'air d'être une fixée.
Et dans la mythologie mésopotamienne, je dirais pas j'adore. Parce que j'ai pris trop de temps.
Le Tibre et le Frate.
Mais Anunnaki, t'as Enkidu.
Anunnaki sur C8, hein, on l'adore. Hein.
Anunnaki et Enkidu, c'est pareil.
Avec Verdesios aussi, c'est pas mal.
Le Tibre et le Frate, oui.
Le Tigre bleu de le Frate. Ouais, on en vient à ce qui, moi, me paraît intéressant. T'es mec qui est salaud.
Non, c'est ton émission.
C'est que la réponse à ta question, et toutes les religions ont une cosmogénèse, bien évidemment, parce que c'est le sujet, oui. C'est pour ça qu'on en fait un sujet.
Oui.
C'est
oui,
le sujet que personne ne comprend, qui est en plus au-dessus de nos têtes. Hein, je ne rappelle pas le ciel qui tombe sur la tête.
Exactement.
On a toujours peur de ça, parce que c'est au-dessus de nous, ça nous dépasse, et ça dépasse complètement nos limites intellectuelles de se dire qu'il n'y a pas de barrière, etc. Et du coup, c'est pas... Ah tiens, toutes les religions ont une explication, une cosmogénèse, une cosmogonie. Non, c'est toutes les religions sont obligées d'en avoir une, parce que c'est le truc qui fait peur aux gens. Mmh. Et c'est de savoir comment tout ça est créé. Et quand bien même tu n'as aucune information sur ce qu'il y a autour de toi, il y a 5000 ans ou que sais-je, ou il y a 2024 ans, tu vois quand même qu'il y a des étoiles. Alors tu sais pas vraiment ce que c'est, mais t'as un soleil des étoiles.
En moins 4000 avant JC, Égypte antique, on est au balbutiement de la technologie. Comment, pardon, quand t'es terre à terre, t'as pas d'électricité, t'as pas de loupe, t'as pas de machin, tu peux...
Qu'ils ont dit, hein.
Tu peux imaginer, qu'un mec ait pensé déjà à l'époque à des planètes, à un système solaire, etc.
Il savait que c'était des boules de feu dans le ciel.
Mais comment il pouvait savoir? C'est ça.
Parce que quand tu regardes le soleil...
J'en viens aux aliens, en vrai.
Excuse-moi, quand tu connais rien, mais tu sais ce que c'est que le feu... Tu regardes le soleil, tu te dis c'est quoi?
Et tu vois, je sais pas
une
si
boule
tu...
de feu.
Bah pardon, mais je suis pas certain de faire le rapport.
D'ailleurs, on a pas beaucoup plus d'infos aujourd'hui.
Faut s'imaginer, nous on connaît pas ça, mais le ciel chez nous il est très pollué. Mais quand tu vas vraiment dans des endroits qui sont préservés, donc à leur époque le monde entier,
il y avait pas de CO2.
Tu vois vraiment le scintillement des étoiles. Tu vois que les étoiles,
que ça crame.
Elles brûlent. Tu les vois scintiller dans le sens où toute une seconde elle est plus scintillante qu'une autre.
Ça c'est vrai.
Et donc tu te dis mais un peu comme le soleil, un peu comme le feu.
Non, ce qui est extrêmement compliqué à comprendre, surtout à l'époque, c'est de comprendre que toi, tu fais partie, en forme de planète ou quoi que ce soit,
De tout ça. Représenter, en fait.
Et que quelqu'un qui est là-bas, il te verrait comme un truc... Alors que toi, tu peux considérer que ton sol, il est absolument plat et qu'il n'y a aucune limite et que c'est juste un toit, tu vois.
Les Grecs, les Égyptiens et probablement les Sumériens savaient que la Terre était ronde et que...
Comment
Les ombres,
calculées avec...
Attention, les Grecs érudits. On en revient à il y a 5000 ans.
Sûr.
Les Grecs érudits, il y a trois bâtons.
D'accord, mais en fait, la différence, c'est que la plupart des gens s'en foutaient complètement et que ça ne changeait rien à leur vie. Mais les gens qui étaient intelligents, qui soient justement des prêtres égyptiens très savants ou alors sumériens ou alors des Grecs philosophes, ils se posaient déjà la question et ils faisaient des calculs très savants. Il me semble qu'il y avait Héraclite dedans, mais je parle sous le contrôle de Maxime. Et ils regardaient vraiment, ils savaient que... Il pouvait.
Je crois qu'il te répond sous ton contrôle.
Non, mais
à toi.
Non, mais je sais qu'à.
Opine.
Je sais qu'à l'époque, ils ont juste réussi à calculer, je crois, le rayon de la Terre à 1000 km près, juste avec un bâton et son ombre.
Ça, c'est exceptionnel.
Ça, calcul.
Ça, c'est
pour ça que
c'est bizarre.
En fait, c'est ça. Ma rhétorique, c'est ça. Il y a quand même un mec un jour qui a eu cette idée incroyable de se dire je vais calculer le soleil.
Et c'est aligné avec les. Voilà.
En fait, c'est vrai. T'as un élément qu'on t'impose que t'as pas besoin d'être un génie pour comprendre, c'est que le soleil bouge dans une journée.
Oui.
Là où il faut être fort...
Que je vois, parce qu'en vrai, c'est que ma perception.
On le voit bouger, mais là où il faut être fort, c'est justement réussir à te dire, même s'il bouge aussi, mais c'est réussir à te dire, c'est pas lui qui bouge, c'est moi qui bouge.
Oui, mais d'accord, j'ai compris.
Et qui tourne. Et c'est là que c'est très fort. Surtout que t'imagines, en plus, tu tournes sur un rond.
La Terre tourne pas autour de toi, Michel, en fait. Hein.
Mais vous avez toujours vu, tu sais, sur YouTube, les YouTube Shorts ou les machins, quand t'as une caméra qui reste sur place dans un endroit où tu vois toute la Voie lactée bouger sur
par exemple Rachida Dati, c'est les trucs qu'elle faisait à la mairie de Paris là, où on tourne autour
d'accord et, et du coup tu vois toutes les constellations bouger, donc pour toi tu te dis ça devait être simple, il devait penser que tout tourner autour.
Oui.
Et à un moment, c'est vrai qu'ils sont les plus intelligents, se sont dit en fait, non, c'est nous qui tournons. Uh-huh. Tu vois.
Mais pourquoi ils se sont dit ça à un moment donné?
Bah parce qu'ils étaient intelligents, c'est tout.
Oui, mais comment est-ce qu'ils ont trouvé?
Ils ont testé plein d'hypothèses, je pense.
Ils se sont rendus compte, bah, ça revient périodiquement à la même période de l'année. Nous, on sait qu'en plus, quand il y a le soleil qui tourne et la lune qui vient après, donc est-ce que ce serait pas tout qui tourne autour de nous ou nous qui tournons autour de quelque chose? Enfin, là, je peux pas dire, mais en gros, ils savaient déjà. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu penses au Big Bang, par exemple, qui était déjà présent un peu dans l'imaginaire, d'ailleurs, c'est un prêtre catholique qui a forgé le mythe l'expression Big Bang, et t'as déjà ça chez les catholiques, t'as déjà ça chez les juifs avec le verbe et Dieu créa et la lumière fut.
Oui, la pure création.
Shatlux. Et en fait, chez les Égyptiens, puisque en fait, la religion hébraïque et la religion, elle vient en grande partie des Mésopotamiens et des Égyptiens, et tu as déjà cette idée d'un océan primordial comme une soupe, le Noun, et en gros, tu as le verbe créateur, un dieu qui se fait...
Donc une force supérieure.
Une force supérieure, un truc qui arrive comme ça, de lui-même, d'un océan de chaos, et qui va dire, je fais la lumière, je fais la matière se recompose, et se met en ordre. Et ça a toujours été présent.
Le dimanche, il y a la F1, donc je me repose, quoi.
Ouais.
En vrai, la théorie de la création est la plus proche du Big Bang, puisque dans l'absolu, comme on n'a pas les détails de ce qui s'est passé...
T'en reviens, excuse-moi, je sais pas si je l'ai dit à la précédente conve, mais le truc qui m'a toujours flingué, c'est qu'il y a énormément d'astrophysiciens, etc., cherchant toute leur carrière l'explication du fameux Big Bang, finissent par devenir presque croyants, pour ne pas dire complètement, parce qu'ils se disent « D'accord, j'arrive à mettre des mots sur mes mots, mais à un moment, il n'empêche que c'est parti de quelque part, ou alors c'est parti de nulle part, ça existait déjà, mais alors comment ça se fait que ça existait déjà ?» Et t'en viens à ne jamais trouver la réponse, et donc t'en viens à chercher ce qu'en fait on t'a donné, tout fait, c'est-à-dire
un justement, Raph, sur cette question, moi ça m'intéresse, parce que l'espace et la religion... C'est, effectivement, on l'a compris ensemble dans nos débats et avec nos réflexions, c'est quand même assez lié. Est-ce que toi, tu as un point de vue sur la question?
Alors, moi, ce que je pense, et déjà, je vais juste répéter ce que j'ai vu pas mal de fois dans des ouvrages scientifiques notamment, il n'y a aucun scientifique qui peut confirmer ou infirmer l'existence de Dieu.
Oui, bah, c'est tout un mac.
Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Alors, peut-être que c'est juste parce qu'à notre niveau d'avancée technologique et scientifique... On n'a pas les réponses à toutes les questions.
Mais aussi qu'en France, on ne peut pas faire de stats.
Et ce que tu disais, Alex, qui est très intéressant, c'est en l'absence de réponse. En l'absence de réponse.
Pénale.
En l'absence de réponse
pénale.
Elle est trop laxiste.
La réponse la plus évidente, c'est parce qu'il y a un dieu en haut. Ouais. Peut-être que dans 200 ans, 300 ans, les gens arriveront à prouver que Dieu n'existe pas.
Non,
peut-être.
Non.
Peut-être que oui, peut-être que non. Et
non,
je
parce
dis
que tu auras toujours l'explication de pourquoi la vie, pourquoi tout ça.
Bien sûr, bien sûr. Et je vous dis ça en tant que croyant. Peut-être qu'un jour, il y aura une divergence totale entre la science et la religion. Mais pour l'instant, c'est une convergence.
Ce que dit Alex, il y a pas mal de scientifiques qui finissent par croire à quelque chose. Oui, mais ils ne deviennent pas forcément catholiques ou musulmans.
Ah non.
Ils
croient à la
puissance. Ils sont juste déistes. C'est-à-dire, ils croient à
la puissance.
Une sorte d'horloger universel, un truc, une force créatrice, mais qui laisse le reste totalement. Tu vois, c'est genre. Hands off, quoi. Vraiment,
mais du coup, t'as quand même le why.
Oui,
quand même.
Exactement.
Et t'en viens à la même question d'ailleurs, c'est qu'ils essayent de boucher un inconnu par une sorte de déification de quelque chose, mais t'as envie de dire, ouais, mais il vient d'où ce dieu?
Par exemple, les théories aujourd'hui.
Et là, tu réouvres.
Ah oui, mais moi, j'avais des tristes angoisses de penser à ça. Hein.
Les théories aujourd'hui, tu vois, le Big Bang, c'est bien pratique parce que t'as un début et une fin. Sauf qu'on.
Il y a un truc avant quand même.
Est-ce qu'il y a eu avant un Big Crunch et qu'en fait, on est dans un univers qui. En fait,
qui n'arrête
pas de
se
contracter et de s'étendre.
C'est un sphincter,
Maxime vous fera une démonstration.
Tente-toi bien.
Ou alors, est-ce que c'est pas censé
le remake live.
Ou alors, est-ce que vraiment il y avait vraiment rien et d'un coup il y a eu quelque chose et dans ce cas-là, c'est.
Oui, mais même ça, c'est vertigineux.
Oui. Et dans ce cas-là, dans la théorie.
Parce que même la religion ne l'explique pas. Elle n'est pas capable de te dire qu'est-ce qui s'est passé. En gros, d'où le tout vient du rien.
Mais c'est pas la religion de le dire, je pense.
Ah bah, dans ce cas, moi, elle me sert à rien. Parce que c'est la seule raison pour laquelle je pourrais éventuellement y aller.
Même pour un croyant, il va te dire... Enfin, même pour un croyant, moi, ce que je me suis posé la question quand j'ai arrêté de croire, c'est même si je trouve toujours pratique et pertinent d'expliquer les choses en disant « il y a quelqu'un qui a créé la chose », sauf que moi, comme Aristote, je demande « mais qui a créé le créateur ?»
Mais voilà.
C'est ce que je viens de dire.
Qui a créé Dieu ?
Peut-être un univers.
Plus le débat avance et plus j'ai l'impression que ça va finir en « je sais que je ne sais rien
». Aragon a dit...
Pour pouvoir se reposer un petit peu, on va faire une petite pause là.
Il a réfléchi à son musique nulle.
Et on va se faire
un Sheila, un Spacer.
Non, un Spacer, on fera en fin d'émission.
Ah,
tu viens de lui donner
on se quittera sur Spacer. une de mes chansons préférées. Non, là, on va se faire un extrait de Temps X.
Ah
voilà.
Bonjour à tous. Bonjour
Dusha. Au frère Bogdanov. Donc on va s'écouter un extrait, un court extrait de Temps X. Et on se retrouve juste après pour parler du doigt de Dieu. J'adore. J'espère la théorie du
c'est
doigt,
mieux que le doigt de
Dieu.
On fera Stephen Hawking aussi.
On va tout faire. Bon, on se retrouve tout de suite.
Ah, si seulement je pouvais recommencer. Si je pouvais revenir en arrière. Eh oui. Lequel d'entre nous n'a pas eu, à un moment ou à un autre, le désir de revenir dans le passé, mettons pour corriger un événement malheureux, ou tout simplement pour retrouver le temps à jamais perdu de son enfance. Hélas, rien à faire. Loin de suspendre son vol, le temps passe. Il coule, il fuit, on en manque. On le trouve long, on en prend, on en donne, mais tout cela sans jamais pouvoir agir sur lui et sans savoir ce qu'il est vraiment. Bien sûr, nous savons tous nous servir d'une montre. Cela veut dire qu'il nous est possible de mesurer le temps, de le découper en tranches plus ou moins longues qui vont du millionième de seconde au millénaire. Mais avouons-le, notre grand rêve à tous, ce n'est pas seulement de mesurer le temps, ce serait de nous en rendre maîtres, c'est-à-dire de pouvoir nous y déplacer à notre guise, dans le futur comme dans le passé. Et c'est ce rêve que les auteurs de science-fiction ont rendu célèbre sous la forme fameuse du voyage dans le temps. Une machine à voyager dans le temps, ce serait l'idéal. Il suffirait alors de pousser un levier, comme le fit le célèbre voyageur imaginé par Wells en 1898 dans La machine à voyager dans le temps, pour accélérer ou ralentir le cours du temps et se déplacer ainsi dans la quatrième dimension comme au long d'une route.
Première question résolue. On ne s'est pas une question tout à l'heure.
J'ai l'impression qu'on a fermé des possibilités, mais qu'on n'avait pas ouvert
là,
beaucoup.
Là, on a une question qui est résolue. Ben non, c'est pas si Dieu existe ou pas.
Ah non, c'est est-ce que le cul de Maxime s'ouvre ou se referme comme le.
On avait dit pas
de. À l'image de l'univers.
On sait très bien que oui.
On a une accurate representation of the universe. Non, Maxime a une réponse pour nous sur comment les Égyptiens ont réussi à mesurer la Terre avec un bout de bois. J'adore cette théorie.
Ils ont sorti un iPhone avec la pellicule. C'était Eratosthène, donc c'est les Grecs, j'imagine.
Qui avait récupéré ça.
Deux le matin et deux le soir, tu dors comme un bébé derrière.
En fait, il s'est rendu compte que le 21 juin, au-dessus de son puits, il n'y avait pas d'ombre dans le puits parce que
j'adore.
Le soleil était pile.
C'est exceptionnel.
Ça, c'est incroyable, ça. Et il s'est rendu compte qu'un peu plus loin, il y avait une ombre parce que du coup, il y avait un décalage. Et en fait, en mesurant la distance entre les deux puits et l'angle potentiellement qu'il y avait avec la Terre, on veut une règle de 3 avec l'angle à 360.
Exactement.
On a réussi à
exceptionnel.
Découvrir le rayon de la Terre.
Non mais c'est non mais là
avec un bout de bois et un âne qui mesure les pas entre.
Non mais la puissance mentale qu'il faut à l'époque pour penser à ça quoi.
Quand je vous dis que ce n'est pas possible de reproduire ça aujourd'hui.
Tu fais Pascal Pro là ?
Non, pas vraiment, je fais Wissem quoi.
Mais quand je vous dis.
Mais c'est terrible.
Qu'on marche sur la tête.
Mais il a raison.
Impossible.
Que des Arabes trouvent ça avant nous.
Mais comment quelqu'un pourrait trouver ça aujourd'hui ?
Et à l'époque, il a trouvé la distance de 39 375 km et la circonférence est de 40 070.
Ah, franchement,
ils ont pris le péage.
Il y a une petite marge d'erreur.
À 700
km.
À Saint-Arnaud, on se fait tous niquer. Il n'y a pas la raison qu'il soit.
Il
n'a
pas pris le péage ce soir. Non, mais ça arrive, 700 km.
Ouais, il a gagné 70 euros, mais il a perdu 70 minutes.
Paris-Marseille, quand même, ce con. Non, mais bravo à lui, Aristotène. Hein. Franchement,
on
l'embrasse. Aristotène, Dieu bénisse. Dieu bénisse les Mavromatis.
Juste après le 9.
Dieu bénisse Aristotène et Mavromatis. C'est un traiteur grec. on va ouvrir la deuxième page, celle qui me plaît le plus. Comment est-ce que vous êtes tombé, si vous êtes passionné de l'univers, dans la passion de l'univers ? Et en quoi est-ce que ça se, en quoi est-ce que ça se matérialise dans votre vie de tous les jours ? Est-ce que vous pensez à l'univers souvent ? Est-ce que vous regardez l'univers souvent ? Je propose à Alex de nous répondre.
Wow.
Comment est-ce que tu es rentré là-dedans et comment ça se matérialise dans ta vie ?
Août 95. Monaco.
Monaco.
Non, moi, c'est arrivé extrêmement tard dans ma vie. 23h30, je pense.
23h30.
Ouais, à peu près. Et non, ça a dû arriver vraiment vers mes 20 ans ou un truc comme ça. C'est-à-dire que j'ai même pas eu la curiosité de l'adolescent ou tout ça. Et finalement, c'est arrivé en juste les étoiles, waouh, c'est incroyable, j'y bite rien, ça m'intéresse 5 minutes par année. Et petit à petit, ça a vraiment grossi, parce que, comme moi, à mon image d'ailleurs.
Ah oui, parce que c'était proportionnel.
À partir, en fait, le risque, c'est, bon, ok, c'est beau, ok, on y bite rien.
Tu te fais dévorer.
Mais à partir du moment où tu te poses une question,
ah ouais, c'est fini,
c'est
vertige,
terminé.
Vertige.
Parce que tu cherches des réponses, ou tu cherches encore mieux, j'adore, tu te renseignes pour savoir vraiment les vraies réponses. Et là, ça devient incroyable, parce que t'as 15 000 autres questions, comme un enfant qui demande à son père un truc. Et donc ça, c'est incroyable. Et du coup, tu te mets à regarder des reportages, et à la stimulation intellectuelle et philosophique, on en a parlé, revenir sur le bonheur, sûr, la con la dernière sûr. Fois. T'as aussi rien que le fait que ce soit d'une beauté folle.
Ça, c'est vrai. Il y a une beauté dans l'univers.
Il y a une beauté incroyable, même qui pourtant c'est la mort partout.
Oui, c'est la.
Enfin, la mort humaine partout. Il y a rien d'intéressant. C'est des lacs de méthane et des trucs de sulfure et tout ça.
Et la plupart des images jolies qu'on nous montre souvent, en réalité, c'est pas avec de la lumière visible.
Évidemment.
Bien sûr.
Donc oui, pour nous, si coloré. On y était, on verrait rien. Une nébuleuse, on verrait rien du tout. C'est juste dans les infrarouges et les ultraviolets.
Oui, qu'on mélange en RGB, bien sûr.
Ouais, en RGB. Pardon.
Et il n'empêche que tu vas sur le truc le plus basique. Pour nous, en tout cas, c'est-à-dire Mars. Pourquoi basique ? Parce qu'on la connaît maintenant très bien.
C'est la meilleure des confiseries. C'est un must dans un placard.
Le rapport calorie-taille est parfait.
C'est le mois du printemps, franchement.
Et puis 2 euros, il y a une résolution qui est meilleure que sur les vidéos YouTube de 2004.
Non, mais et tu viens sur ça, on la connaît très bien et il n'y a rien d'extraordinaire. C'est de la roche et un peu d'oxyde de fer, quoi. Enfin, ouais. Un truc comme ça. Et pourtant, maintenant, tu as des robots dessus. Déjà, moi, ça me flingue.
Mais moi, les photos, à chaque fois que je vois une photo de Mars, j'ai un vertige.
Vous avez vu une photo du soleil bleu sur Mars ? Le soleil est bleu Mars en raison de l'oxygène, enfin la taille de
l'atmosphère.
Et il n'y a pas d'oxygène, enfin pas assez. Et le soleil est bleu, comme chez nous, il nous
apparaît. Il fait 300 degrés déjà.
Et il fait froid.
Ah non, il fait froid sur Mars.
Et t'as vraiment pas aimé Dune ?
Non, ça n'a rien à voir.
Non,
mais,
arrête.
Mais par contre,
j'aime lever.
Honnêtement là-dessus, moi j'aime bien Star Wars, mais absolument pas pour l'univers, parce que vu que c'est une œuvre de fiction, ça te bouge pas, moi.
Bah oui. Les images.
Mais par contre, ouais, tu vois des images de Curiosity ou de Persévérance, déjà. Ouais. J'adore la poésie des noms.
Quand il parle au premier degré sur Twitter, genre Hello, je suis le robot et
plus de batterie.
Oui, arrête, c'est trop triste.
Et accessoirement, en plus, je trouve que c'est un peu comme les gens qui aiment le cinéma qui t'expliquent que globalement, c'est tous les arts réunis en un, donc tu te régales. Et ben globalement, je trouve que l'espace, c'est un peu tout ça, parce qu'il y a des questions philosophiques, de quoi te perdre,
le
de
son,
l'art, de la beauté,
le son dans l'espace,
du son,
c'est terrifiant ça. C'est terrifiant.
L'idée du son dans l'espace, je trouve
j'aime
ça.
Bien cette idée. Y en a pas. Que l'espace soit agrégateur.
Ah oui, merde.
J'aime bien l'idée que l'espace soit agrégateur de plein de choses.
Ouais.
Et en ça, c'est fascinant.
C'est de l'art. Et regarde, de toutes les découvertes.
Ouais.
Écoute les marins, qu'est-ce qu'ils te disent ? On leur pose, ça vous fait peur de vous retrouver seul ? Ils disent, ben non, c'est pour ça que je fais ça. Pour me retrouver seul au milieu de l'océan, qu'il n'y ait plus une trace d'humanité à part moi, etc. Et c'est pour ça que les vrais marins rigolent des mecs qui font les transats et autres, parce que les mecs, ils ont des ordis, des caméras, des trucs. Bon, et ben, quand t'es sur Mars, moi, je me mets à la place de Curiosity ou de Persévérance, je vois une photo de Mars, bon, soleil ou pas soleil, tu vois juste les traces de ces roues, de ces trucs, et dans une immensité, et tu te dis, mais... Imagine, je me retrouve là-dessus. Là, toi, Matt Damon, quoi. Mais seul sur Mars, mais tu dis, mais imagine la puissance de la solitude sur un truc comme ça.
Il y a des astronautes qui sont sortis de l'orbite terrestre et qui sont pris d'une forme d'anxiété d'un coup, alors qu'ils sont largement au fait de tout ça. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient au milieu du rien, mais genre au rien. C'est-à-dire que c'est limite le seul truc qui pourrait s'en rapprocher, ce serait de se dire. T'es perdu sur un radeau au milieu du Pacifique. Genre, t'es vraiment dans le rien.
Et encore, ça reste des choses que tu peux matérialiser et conscientiser.
Et là, t'es dans le rien.
Mais ce rien-là, il terrifie, moi.
T'es jamais sûr, en plus, pour être très terre-à-terre, t'es jamais sûr de pouvoir re-rentrer dans l'atmosphère.
C'est ça,
et
c'est ça que je veux dire. Le truc qui pourrait s'en rapprocher le plus, à une époque, c'était les grandes découvertes, les marins qui partaient pour des semaines et des semaines, ou même avant les Vikings ou les pêcheurs.
Ou alors le coma. Bah oui, non mais rigolez pas.
Sergio, coma.
Non, le coma. Le coma, c'est une forme d'espace.
Oui, mais tu t'en rends pas compte.
Ah oui, qu'est-ce que t'en sais ?
Mais à ce moment-là,
j'en reviens.
À ce moment-là, t'assimiles le coma, donc c'est l'inconnu.
Ouais.
Je sais pas ce que c'est, l'inconnu à l'espace.
Ah bah
et
oui.
Je trouve que ça, c'est un point très intéressant. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de progrès technologiques, surtout ces derniers siècles, etc. Et l'homme peut avoir l'impression trompeuse qu'il est maître de son destin. C'est-à-dire qu'il peut, avec l'euthanasie, il peut maîtriser sa mort. Avec le clonage, il peut maîtriser la vie. Donc il y a une idée que l'homme devient ivre de pouvoir et ivre de lui-même. Et je trouve que justement, se replacer dans le contexte de l'espace montre que l'homme n'est rien du tout.
On en parle.
Et je pense que c'est une cure d'humilité dont on a besoin. De se rappeler
conf sur les aliens, on en avait
parlé. Et on en a parlé sur le bonheur aussi. Et avec Maxime, parce qu'on passe pas mal de soirées quand on va en vacances ensemble l'été à regarder les étoiles.
Ah, d'accord. Et l'étoile de Maxime.
Ouais. Tu l'as vu, ma grande casserole, ouais.
Oh là là.
Ma grande ours.
C'est vrai qu'Alex, il a eu la chance de voir deux lunes en même temps.
Oh. C'était Tatooine, quoi.
Des fois, c'est la grande ours et des fois, c'est le Montpellier. Ça dépend du temps qu'il a eu dans la soirée.
C'est mignon.
Montpellier
qui a un volcan sur Mars. Voilà.
Bah oui, bien sûr.
Non, je crois pas. En plus, je crois que c'est dans les Antilles.
Ah, c'est pas ça.
C'est pas l'Olympe.
C'est la montagne Pelée. T'as la montagne Pelée, mais t'as le Montpellier aussi.
Tu voulais dire.
Bah, j'ai oublié. Oh. Tu disais quoi? Ça va me revenir.
Que la place de
l'homme. Ah oui, l'humilité. Et c'est vrai que.
C'est quand il y a beaucoup d'eau.
Et avec ma.
C'est quand il y a beaucoup d'eau, l'humilité.
J'arrête pas de lui dire. Enfin, globalement, moi, mon premier truc quand je vois tout ça, c'est de me dire, mais ils sont où les problèmes? Parce que on est rien, on ne va nulle part, il n'y a aucun problème, puisque de toute façon, on est rien du tout. Et globalement, c'est ça que ça m'apporte. Bon, je le range dans le philosophique de l'espace, mais c'est ça que ça t'apporte, c'est de te dire, on est rien, on part de rien, donc, mollo.
Mon jardin, je m'en fous, les gens, je m'en fous.
Oui, Ramadan, je m'en fous.
Finalement, la CSG, Macron, tout ça, on en a un peu rien.
C'est vrai que ça paraît small en
comparaison.
C'est un peu l'aspect scientifique.
Attendez.
Vas-y, Max.
Je pense que ce sera un argument de Macron aux européennes. On s'en fout, c'est la merde. Mais l'espace, les gars.
Max.
Non, mais moi, l'aspect scientifique me fascine. Savoir que juste la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et que par exemple, quand tu regardes.
Ouais, sur un Paris-Vénus, je vais plus vite avec Ryanair.
que quand tu regardes le soleil, tu le vois tel qu'il était il y a 8 minutes. Que quand tu regardes la lune, tu la vois telle qu'elle était il y a 1 seconde.
C'est tu peux voir des étoiles qui sont déjà dead en fait.
C'est
des fantômes.
Et c'est juste que la lumière est encore en train de te parvenir.
Ça, c'est exceptionnel.
C'est ça qui est exceptionnel.
Ça, c'est exceptionnel.
Et de la même manière, si tu pousses un peu plus loin, le simple concept de l'espace-temps et du fait que tu peux voyager dans le temps, dans l'avenir. Ça se débat, mais j'ai aucune arme. Mais moi, je crois les gens.
Si on peut le faire dans un sens, on peut le faire dans l'autre.
Non, je crois les gens qui disent qu'on peut le faire que dans l'avenir. Mais enfin,
moi,
bref.
Non.
Et globalement.
Mais expliquez ça, parce qu'on comprend pas. Expliquez.
Moi, je prends une image. Alors, les vrais puristes vont critiquer, mais c'est pas grave.
Ils nous écoutent.
Les quatre dimensions primaires, oui, c'est
vrai. Les puristes, ils nous ont quittés à Spacer.
T'imagines au CNRS, ils sont tous avec leur casque. Attendez, qu'est-ce qu'ils vont dire?
C'est Alex qui.
Qu'est-ce qu'ils vont dire? Prenez des notes. Au CNES.
L'espace et le temps sont.
J'adore.
Déformable.
Ça, j'adore.
Ouais. Déjà, il faut partir de accepter
plus c'est lourd, plus ça déforme le temps.
Et c'est là que j'en viens. C'est imaginer un drap que tu tends. Voilà, t'as une personne avec toi, tu tends le drap.
Une bille ou une boule de pétanque.
Voilà. Ça, c'est. Tends bien le drap. Ça, c'est l'espace-temps.
Tends bien ton drap, là.
Mais faut imaginer que c'est plutôt en chewing-gum ou je sais pas quoi. Et du coup, si t'y mets une boule de pétanque, mettons un soleil, t'y mets une boule de pétanque, forcément, tu déformes
le drap.
Ce drap. Ouais. Et du coup. Plutôt que quelqu'un qui passe tout droit, si tu passes par cet astre, forcément c'est déformé, donc tu fais un peu plus de chemin, et donc ça marche géographiquement en termes d'espace,
et
ça marche aussi de temps, parce que tu mets plus de temps, le temps lui-même. Et l'exemple typique de qu'est-ce que c'est qu'un trou noir, c'est tout simplement un truc qui a tellement de masse pour une forme pour une taille pas énorme que en fait t'as un puits immense dont même la lumière quand elle rentre dedans elle ne peut pas ressortir. Pourquoi? Parce que sa vitesse n'est pas assez forte pour sortir de l'attraction de la gravité.
Et elle va où la lumière?
Elle reste bloquée au fond.
Là-dedans, il y a un sac.
C'est l'éternelle question de est-ce que c'est un trou sans fond ou est-ce que c'est simplement un puits sur
ou
un autre univers?
Ou un aller-retour vers un truc autre chose. Oui, voilà.
Un autre univers.
Est-ce que c'est comme quand tu replies une feuille de papier sur soi et que tu fais un
ça,
trou
de verre?
Voilà. Est-ce que du coup, en fait, tout ce qui passerait dans le trou de l'aiguille d'une feuille repliée, est-ce que ça passerait de l'autre côté ou pas? C'est une des théories. Mais
on n'est pas sûr en tout cas. Personne n'est certain
sûr du tout. Mais c'est vrai que.
Mais c'est quoi cette histoire de temps là? On ne peut pas expliquer.
C'est comme dans Interstellar, tu vois, quand ils vont sur une planète et qu'en fait, ils ont passé une minute sur la planète et on. Sur Terre, ça
représente
3 ans.
Mais en quoi est-ce qu'on pourrait aller plus vite, enfin aller dans le temps?
Moi, je pense pas qu'on puisse pas voyager dans le temps. Alors, Alex, je lui laisserai l'honneur d'expliquer pourquoi ce serait possible que dans l'avenir. Et moi, je dis juste que je ne pense pas que ce soit dans le passé ou dans l'avenir, parce qu'il faudra avoir une telle quantité d'énergie, oui. Alors que...
Mais on a le nucléaire, en fait, en France.
Oh là, le nucléaire. Non, mais
Flamanville, c'est quoi? C'est qu'en fait, les gars, on fait Flamanville, des choses sur 60 ans.
Mais sauf qu'un photon n'a pas de masse, et il faudrait qu'on arrive, en ayant une masse, à aller plus vite que quelque chose qui n'a pas de masse.
Ah, or, j'ai compris.
Plus tu as une masse, plus la quantité d'énergie nécessaire pour te mouvoir devrait être...
Parce que Alex, qu'est-ce qu'il faudrait
normalement,
pour aller pour rattraper le temps, en fait, c'est ça l'idée.
Bah, globalement, moi, bah après là, on touche à une limite intellectuelle pour moi quand même. Hein, je suis pas scientifique, mais moi, l'idée qui m'a convaincu, c'est de dire globalement, en fait, c'est une question de mouvement. C'est autrement dit, toi, tu restes sur Terre, moi, je prends une fusée et je m'en vais par mon mouvement, ma vitesse, etc. Et accessoirement, et ça, t'arrives dans Interstellar où je vais. Si je vais dans un endroit où le temps, toi t'es sur Terre, donc la Terre elle a une masse, elle déforme l'espace-temps, pas de ouf à l'échelle intergalactique, hein, on va pas se mentir. Mais si moi je prends un truc et que je vais pas loin par exemple d'un trou noir ou d'une planète gigantesquissime qui fait
soleil,
15 000 fois ou un soleil
non,
énorme,
non mais même un Saturne par exemple,
un Saturne
ou un Jupiter, ouais, c'est plus gros,
la différence serait pas énorme. Donc je prends la caricature d'un truc immense. Bon, bah par exemple t'as des trous noirs ou des soleils qui font la taille de l'orbite de la Terre. Bon bah prenons ça, moi je vais là. Forcément, le temps est beaucoup plus déformé. L'espace et le temps sont plus déformés.
Mais ça se ressent comment ? On le sait ou pas, ça ?
Non, non, toi, tu le vois pas.
C'est de la gravité.
Toi,
ton ressenti est le même.
Toi, ton ressenti est le même. Sauf que, par exemple, une seconde durera 7 ans pour quelqu'un à l'extérieur.
Oui, c'est une question de relativité en permanence. Quoi.
Vous, il va y avoir 7 ans qui va se passer parce que le temps passe assez vite parce que vous déformez pas trop l'espace et le temps.
Ah, c'est ça qui
et moi, je vais à un endroit qui déforme énormément l'espace-temps. Et du coup, pour le même temps qu'on aura ressenti, et bah, toi, t'auras vieilli de 7 ans quand je reviendrai, et moi, j'aurai
si
toujours mon âge.
Si t'appelles ça voyager dans le temps, effectivement, c'est possible.
T'es extraordinaire.
Et mais c'est pas voyager dans le temps, en fait.
Et c'est là que je dis que c'est.
Voilà,
et c'est pour ça que moi, je dis que c'est que dans l'avenir.
Donc, si ça arrivait, on pourrait aller donc, sur cet endroit-là, y rester un an, et revenir sur Terre.
Dans un million d'années, oui. Je sais pas, moi.
Ouais,
la planète est très grande, très petite, pardon,
et
ça marche.
Revenir sur Terre qui aura un million d'années.
C'est typiquement l'idée d'Interstellar où le mec, il part avec 30 ans de plus que sa fille. Quand il revient, bon, évidemment, il est allé près d'un trou noir, donc à mon avis, en plus, l'espace.
Elle-même, sa fille est dans une station spatiale à la fin.
En plus, oui, c'est ça. Mais sa fille, elle a 90 piges, et lui, il revient, il a vécu globalement.
Quelques mois. Quelques années.
3 mois.
Mais concrètement, sur notre échelle de temps à nous, est-ce qu'il a vraiment vécu autant de temps que sur Terre, en gros? En équivalence?
Non, non, pour lui, il a vécu. Parce que littéralement autant du temps que
il a vécu, son temps cellulaire à lui.
C'est-à-dire,
il a vécu.
Il a vécu de la même façon qu'il aurait vécu sur Terre.
C'est juste qu'on est obligé de donner une donnée objective.
Mais c'est vertigineux de penser ça.
Nous,
oui, absolument.
Mais c'est genre, je m'éloigne d'une planète. À un moment, je vais atteindre un stade d'éloignement ou de puissance de masse qui fait. Non, mais c'est vertigineux.
C'est exactement ce qui est inconcevable. Et c'est pour ça qu'Einstein, notamment, qui a vraiment réussi à théoriser et à calculer et etc., qui a tout basé sur l'espace-temps, en fait, a été un précurseur immensissime qui nous a fait gagner, à mon sens, des siècles et des siècles et des siècles, parce qu'il a réussi à comprendre un truc. Et pareil, à l'époque d'Einstein, par exemple, on se basait surtout sur Newton pour parler notamment d'attirance des masses.
Et Newton n'est pas que de la Terre,
mais de la gravitation.
Non, mais de la gravitation et du coup l'attirance des masses, etc. Et c'est comme ça notamment qu'il expliquait et qu'il arrivait à calculer les planètes autour du Soleil. Et en réalité, t'as un mec qui arrive qui t'explique que le temps est déformable comme le reste.
Ouais.
Déjà, c'est incroyable. Et ensuite, lui, il t'explique qu'en fait, l'orbite des planètes autour du Soleil, c'est pas tant juste la gravité du Soleil qui t'attire, que moi je pousse, j'ai une vitesse, donc je m'éloigne et en même temps je suis attiré. C'est la déformation de l'espace-temps. Donc tu imagines ton droit, t'as le Soleil au centre qui en fait une énorme cuve, hein, une curve.
T'as des billes autour.
T'as des billes autour que tu tournes.
Ils font des trucs à des allers-retours en gros.
Mais à une vitesse suffisamment forte pour que,
pas être
en
trop
même temps
attirée,
qu'elle est attirée par le Soleil, elle reste sur sa ligne. Hein, et en fait, tu la lances. Mais
et d'ailleurs, et c'est elle là même ont un petit poids sur le drap, mais juste
exactement
infini.
Et
t'as en fait, une boule de bowling. Et autour, t'as genre un calot de une bille normale
qui suit sa petite déformation autour.
Voilà.
Et c'est là qu'Einstein a été génial, c'est que dans ce genre d'image, considérer que les planètes qui tournent autour du Soleil, elles sont, enfin, les billes, tu les lances pas avec un spin, hein, tu les lances pas avec un effet.
Oui, elles démarrent toutes
seules. Tu les lances droites.
Ouais.
Ah.
Et s'il y avait pas le Soleil, elles iraient tout droit sur ton drap.
Ouais.
Mais parce qu'il y a le Soleil, elle tourne.
Et pourquoi elles ne se rapprochent pas du Soleil? Non,
parce qu'en fait, elles ont une vitesse suffisante pour s'en sortir de la gravité. Non, et en même temps...
Même un parcours de billes, au bout d'un moment, elle va s'arrêter de tourner, non?
Non, regarde.
Parce qu'en fait, dans l'espace,
ça dépend du plan.
Il
n'y
a pas d'air. Il n'y a aucune résistance.
Il n'y a aucune friction, j'ai compris.
T'as aussi le Soleil qui lui-même est attiré par le centre de la galaxie.
Le soleil bouge. Hein,
le soleil bouge.
Ah bon?
Le soleil, il n'est pas fixe.
Ah bah oui,
on est dans un bras de la galaxie et toutes les étoiles du bras de la galaxie sont attirées par le gigantesque trou noir qui se trouve.
Mais c'est terrifiant. Hein.
En gros, t'as le soleil qui avance.
Je me sens pas safe dans cet univers. On va déménager.
T'as le soleil qui avance et t'as les planètes qui tournent autour de lui en avançant.
En fait, le soleil.
Chacun tourne autour de l'autre.
En fait, imagine, je te fais, c'est pas du tout radiophonique, mais t'as le soleil qui avance comme ça et nous, t'as les trucs qui tournent autour.
J'ai compris. En avançant
tout en avançant. Et il faut s'imaginer que si on arrivait, mais ce serait impossible à l'heure actuelle et avant des millions d'années, mais si on se dit on arrive à l'échelle d'une vie humaine à aller près du trou noir qui est au centre de la galaxie.
Mais on va être attiré, non?
Oui, on est attiré.
Il faut un super moteur pour t'y échapper, quoi.
En fait, à un moment, si tu t'approches. Tu t'approches d'un trou noir.
L'horizon de je sais plus quoi.
En fait, il est tellement massif qu'en fait, la gravité au niveau de tes pieds, au niveau de ta tête, ne serait déjà pas la même. Et en fait, tu commencerais à être étiré et cartelé, tu vois.
Ouais, ah ouais, c'est d'une puissance. Ah,
Mais si on exclut tout ça, si t'étais juste dans l'horizon d'un trou noir suffisamment, et qu'ensuite tu revenais, je sais pas d'où t'étais parti, en gros. Eh ben, y aurait des centaines et des millions d'années qui seraient passées.
Wow.
Alors que toi,
oui, toi ça
t'aurais juste vécu quelques minutes. Quoi.
Non mais rien que ça, d'imaginer les possibilités scientifiques de ça, si on peut reproduire ça chez nous, je veux dire.
Et ça, c'est pas du voyage dans le temps, mais techniquement, Alex a raison et je comprends.
C'est du voyage dans l'espace-temps.
Voilà. C'est du voyage dans l'espace-temps.
Mais c'est pour ça que
mais repartir dans le passé, par contre, pour moi,
pensez-y quand le Uber Eats va oublier votre coca en vous disant mais...
J'ai pas eu le temps. Non, mais... T'as envie de dire frère, non, mais... l'espace et le temps, tu l'as
dire,
en fait.
T'imagines, c'est les futilités de notre vie, quoi. Ouais. Bref. On va s'écouter un peu dans Zimmer.
Interstellar.
Qui fait un faire Interstellar un peu dans Zimmer.
Si vous avez 15 minutes
une
devant
petite
vous.
Petite pièce, oui, l'intégrale.
Pour entendre une mesure.
Oui, c'est ça, l'intégrale du film. on va écouter un peu dans Zimmer sur Interstellar. Et on se retrouve juste après pour se dire au revoir, les amis. Hein.
Déjà
les amis.
On a trop parlé.
C'est les 10 commandements déjà.
On va faire Espace 2.
Temps d'écouter Mountains de Hans Zimmer et on a une anecdote assez intéressante sur cette partition et vous allez pouvoir retourner un petit peu en arrière, faire un petit voyage dans le temps pour réécouter cette partition parce que écoutez cette anecdote puisque vous savez peut-être que dans cette scène en particulier ils sont sur une planète. Mm-hmm. Ils sont sur une planète qui a quelle est la particularité?
Planète Rubicon.
C'est la planète Rab.
Donc vous souvenez peut-être, ils voient les fameuses vagues, etc. Donc c'est une scène qui est extrêmement puissante. Ouais. Selon des gens qui ont enquêté sur le thème qui a été composé par Hans Zimmer. Donc chaque heure passée, évidemment, vous en souvenez, sur cette planète équivaut à 7 ans sur Terre.
Mais c'est pas complètement, c'est pas irréaliste.
C'est pas irréaliste. Ouais. Et un utilisateur de Reddit a fait quelques maths et il a découvert que le tic que vous entendez dans Mountains de Hans Zimmer apparaît toutes les 1 seconde 25. Et en fait, chaque tic que vous écoutez, que vous entendez, c'est une journée entière qui passe sur Terre.
Mmh.
Donc revenez un petit peu en arrière, chers auditeurs, réécoutez un petit extrait de Mountains et chaque tic que vous entendez joué par Hans Zimmer équivaut à un jour.
Et donc dans tout le film, t'as combien de tics
sur ta... Alors c'est juste sur cette planète. C'est sur cette planète parce que cette planète a cette particularité.
J'ai compris.
Elle est proche d'un trou noir.
Je pense que c'est plus intéressant de regarder la séquence du film et d'écouter quand il y a un tic pour réaliser ce qui se passe.
Absolument. Si vous avez la possibilité, il me semble que ça doit être sur une plateforme.
C'est sur Amazon Prime.
Mais c'est pour ça que... Bon, on parle pas de ce film, mais c'est pour ça que ce film, à mon sens, est absolument réussi. C'est pour deux trucs, en fait. Bon, quand tu te plais dans l'espace, tu te plais. Mais c'est le côté quand il, déjà dans, sur cette planète, ils passent, du coup ils chient en plus parce qu'ils y font pas grand chose et ils se ratent et ils perdent une demi-heure, une heure, voilà. Et donc en fait tu dis, bah j'ai pas juste perdu une demi-heure, une heure. J'ai perdu presque l'équivalent de la vie de ma fille.
Exactement.
Tu vois, donc ça c'est immense. Ouais. Et ensuite, quand
ils ne sont pas allés dans un endroit mancraignos sans terre de taille.
Parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils cherchaient un endroit pour aller vivre.
Ils cherchaient une planète laquelle les conditions de vie humaines étaient possibles.
Parce que sur Terre, c'est finito.
Il n'y a pas de planète B en fait.
Et ça a l'air complètement zinzin, mais en fait, c'est dans 70 piges, dans 50 ans, et ça a l'air de plus en plus crédible. Et
tu crois toi ?
Non, ça va le faire.
Et globalement, quand ils remontent dans le vaisseau, derrière, ils regardent les vidéos envoyées par ces enfants.
Ouais.
Vidéos envoyées tous les ans, tous les 5 ans.
Terrible.
Et en fait, tu vois, Chalamet et sa fille, mais sa fille
du fait la gueule. Électromagnétiques, donc qui voyagent très vite, beaucoup plus vite que de la matière.
Ah oui.
Et pourtant,
quasiment la vitesse de la lumière. En fait,
voilà.
C'est vrai.
Et toutes les vidéos, en fait, ton Chalamet qui a 15 ans, derrière il a 20 ans, il a 25, 30 ans, là il est plus baisable. Et ensuite, il a un enfant, etc. etc.
Et il devient casé à Fleck. Absolument.
Et
il devient les Analgaïb.
Les Analgaïb.
Film d'une génération.
Oui.
Alors que non, pour moi, ma génération, c'est Interstellar.
Et je voulais juste répondre, et vu qu'il a rien lancé, j'en profite.
Vas-y, parle là, parce que là, je t'avoue, je décrochais.
Ok. Je voulais juste répondre sur la question de. Il y a un moment, tu finis par tomber, t'es ça. Non, parce qu'il n'y a pas de résistance dans l'espace. Et accessoirement.
Il n'y a aucune résistance. Il n'y a rien.
Non, sauf si tu rentres dans quelque chose.
En gros, je tire une bille comme ça dans l'espace. Tant qu'il
n'y
a rien, elle va continuer. Mais genre jusqu'à l'infini.
C'est la troisième loi de Newton. Deuxième loi de Newton.
Non mais ça je suis désolé, ça non plus je n'arrive pas à le conscientiser.
Le vide.
Mais c'est comme
non, le vide c'est pas tant le vide. C'est
comme quand t'es dans une voiture et que la voiture freine, tu vas avoir tendance à continuer tout droit parce qu'en fait chaque corps persiste dans son mouvement, soit immobile, soit rectiligne uniforme. C'est la loi de Newton.
Oui, sauf que là c'est dans un endroit où il y a rien qui te résiste.
Voilà. Et encore, et dans l'espace n'est pas vraiment vide.
Mais non, voilà, il y a quoi, genre les atomes dans l'espace, c'est quoi ?
Il y a pas de matière, mais on sait bien qu'il y a toujours les hypothèses de la matière noire et de l'antimatière. Et on sait pas où elle est, donc c'est toujours la question.
Des grandes questions.
Insoluble.
Non, mais je peux pas prendre un échantillon de l'espace, en gros. Je peux pas prendre un tube.
Mais là, on sort d'un truc.
C'est ça ma question.
Là, on sort du truc, c'est qu'est-ce qui pousse l'univers à s'étendre continuellement ? Certains pensent que c'est la matière noire ou l'antimatière. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais bref, on sait pas où est l'antimatière, on sait pas où est la matière noire, probablement dans le vide de l'espace, qui serait pas si vide que ça, mais en tout cas c'est pas de la matière que nous on comprend. Mais dans tous les cas, effectivement ils ont raison, c'est que dans le vide absolu, le mouvement ne s'arrête, enfin le mouvement ne s'arrête pas, il y a pas de frottement.
Et accessoirement, je voulais revenir sur les satellites géostationnaires, comme on dit, je crois.
Oui.
Tu sais, les satellites, pourquoi nous on a la Guyane, pourquoi les Russes ils ont une base offshore en plein milieu de je sais plus quoi là, pourquoi, parce qu'en fait sur la mer, dans le Pacifique, je crois. Et en fait, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils veulent se rapprocher au maximum de l'équateur. Parce que à l'équateur, c'est là qu'il y a besoin du moins d'énergie pour sortir.
J'ai compris.
De l'attraction de la Terre.
C'est la force centrifuge.
La force centrifuge. Et tu l'utilises.
Oui, rampe de lancement naturel.
Tu l'utilises, la force centrifuge, et hop, et à un moment, t'en sors. Et par contre, du coup, en permanence, ton truc, il a la puissance pour se barrer de la Terre.
L'ISS,
et en même temps, la gravité de la Terre la ramène. Donc en fait, elle fuit, elle revient en permanence.
Voilà, quand t'es en géostationnaire.
Et ça n'arrive jamais que ça bug et que en gros, la gravité reprenne ses droits.
Jamais.
Comme une machine à laver, en gros, tu sais, c'est la force.
C'est la preuve qu'il n'y a pas de freinage.
Quand t'es en géostationnaire, il faut s'imaginer qu'en fait, le truc en orbite est en chute continuelle vers le sol, sauf qu'il va tellement vite. Que bah ça.
Mais dans ce cas, ça veut dire qu'en gros, si je pousse une fois au-dessus de l'atmosphère, mon truc va tourner indéfiniment. Oui. Mais il n'y a pas un gars qui a pensé à faire les transports avec ça ? Il n'y a même pas besoin de carburant,
mais
coup.
Tu vas où ?
Ah, bah d'accord.
Ouais,
tu, fais des, arrêts en gros.
Tu descends et que tu
vas des aérogares.
Non, mais d'accord, mais la quantité
tu sautes.
La quantité pour sortir.
Mais c'est ça le problème en fait. Tu sautes à New York. Mais une fois que t'es là-haut, dans l'absolu, tu pousses avec tes mains, le truc il avancera toute sa vie quoi.
Oui, tu sautes à Dubaï.
Bon, et là on parle de
On a déjà gagné un kilomètre, je veux dire.
Là on parle de géostationnaire. On n'est pas encore totalement dans le vide.
Bien sûr, bien sûr.
Encore les formes gravitationnelles.
Et vous savez, je suis en train de lire un livre catastrophe de Flammarion qui était un.
La prochaine fois que tu
Mordre à la poussière.
Non. Flammarion, qui a donné son nom à la maison d'édition, qui écrivait en fin 19e. Bref, c'était à la fois un peu de la philo, de l'astronomie et de la science.
Comme Jules Verne.
Ouais. Ouais, un peu dans la vibe. D'ailleurs, les bouquins sont les mêmes, ouais. Visuellement. Et Flammarion, à un moment, il explique notamment bon, le scénario catastrophe, c'est comment les humains se démerdent à Paris en 2500 à peu près. Il y a une énorme comète de la taille de la Terre, globalement, son noyau, qui arrive droit sur la Terre. Et donc, tu as tous les scientifiques, tous les philosophes, tous les.
Ah, c'est dans le look-up,
c'est
quoi.
Très intéressant. Sauf que là, non, tout le monde y croit bien et, ah, okay. Et tout le monde se dit, c'est dans 3 jours en même temps, donc il est temps d'y croire. Ils vont tous scanner. Et en fait, t'as notamment les scientifiques qui expliquent que globalement, ça, bon, dans l'atmosphère, ça va perdre ci, ça va perdre ça, bon, peu importe. Et ça arrive à une certaine vitesse. Et donc, il fait 2-3 calculs un peu simples, en tout cas bien expliqués, pour te faire comprendre la vitesse. Et en fait, évidemment, plus tu te rapproches du soleil, plus tu vas vite parce que t'es attiré par ça. Mais globalement, un astre, à l'échelle de la Terre, en mètres par seconde, bon, c'est évidemment pas la vitesse de la lumière, mais c'est effrayant. La vitesse autour, enfin, la vitesse de la Terre.
La Terre va à combien de kilomètres heure, à peu près?
Ça dépend du référentiel.
Par rapport au Soleil.
Par rapport à quoi? Par rapport au Soleil?
Si la Terre était une voiture, elle irait à combien de kilomètres heure?
Je sais, mais par rapport à quoi?
Je crois que la Terre, alors, c'est pas la
même. On va rester dans le système solaire.
Mais par rapport à sa trajectoire dans le système solaire?
Je crois que, alors, je sais pas à quelle vitesse elle va dans le plan, enfin, dans un plan héliocentrique. Mais par contre, pour nous, la Terre, elle tourne sur elle-même, je crois, c'est un truc du genre 1700 ou 700 kilomètres heure.
Ah ouais, ouais! C'est Mach 2, quoi.
Alors, autour du Soleil, la Terre, elle est à 107 000 kilomètres par heure.
Par heure?
Mais autour du Soleil et sur elle-même? Et sur elle-même,
je regarde. Je croyais que c'était 16 000. Non, c'est le diamètre, ça. Ouais, t'as raison. 100, c'est peut-être
107 000 km.
Quand t'as la tête dans le dedans, tu te rends pas compte.
Donc, quand t'as la tête qui tourne, t'as une raison, quoi. Mais
je comprends pourquoi vous me saoulez tous. Hein.
À quelle vitesse la Terre est tournée sur
mal
elle-même,
à la tête. Hein.
Voilà, j'ai posé la question.
On est en train de chercher là. On est en train de chercher. On va
1700 km/h.
Ah, tu vois, c'est 1700.
Bravo, bravo. Mach 2.
Mais tu vois la vitesse de la Terre par rapport à celle de Mars, pareil, dans référentiel solaire. Ou celle de Vénus ou tout ça autour, en fait c'est ça n'a rien de comparable. On va pas du tout, d'ailleurs c'est normal hein, oui, bah, les révolutions sont pas les mêmes, on n'a pas la même distance, etc. Mais c'est affolant rien que de savoir ça. Et quand toi tu regardes les étoiles et que ça va très lentement, tout va très lentement alors qu'on n'est pas dans les mêmes galaxies,
alors qu'on
va leur
absolu, c'est quand même beaucoup.
C'est dément, c'est complètement dément. Et du coup, tu comprends que quand tu vas dans l'espace, tiens, pour revenir à, oui, c'était ça, à un truc même inerte, mais dans l'espace, il n'y a pas d'inertie en réalité, parce qu'il y a toujours quelque chose. Mais comment tu vas, pourquoi on va, par exemple, quand on a lancé Cassini, vers Saturne, vers les satellites de Saturne, et Cassini, c'est pas dur. On est allé jusqu'à Mars. Mm-hmm. Alors déjà, on a fait un tour autour de la Terre, oui. Hein, parce que tu prends un swing.
On a
comme
fait
on
les
fait
slingshot là, comme
voilà.
Ça.
Voilà. Et après, on est allé jusqu'à Mars et on a profité de l'orbite de Mars. On a fait un tour ou un demi-tour, c'est
et
tout.
Et donc, tu as récupéré un peu comme le. Ouais. Bien ça sûr. Dans ouais. Need for Speed, quand t'es derrière une bagnole ouais. Et que tu récupères son
parce
énergie.
Parce que t'as déjà une vitesse, donc tu prends la gravité et tu ressors parce que t'as trop de vitesse. Et on est arrivé à Saturne qui a une distance, mais irréaliste, Saturne. On est arrivé à Saturne en 7 ans, oui, alors qu'on a utilisé du carburant globalement que pour sortir de l'atmosphère terrestre. Le reste, il n'y a rien qui pousse.
Je ne peux pas revenir.
Et c'est surtout qu'on n'a pas du tout visé Saturne au départ. C'est-à-dire que Saturne, oui, elle n'était pas du tout dans le champ de vision quand on a tiré.
Et en comparatif, une information qui part de Saturne, de ce truc-là, elle met combien de temps à arriver sur Terre?
12 secondes.
Non mais c'est en vrai ça me tabasse de rire que le wifi soit plus rapide que l'espace-temps.
Et
quoi.
Tu sais que là-bas, non mais moi
elle est pas plus rapide.
Non mais pas plus rapide, mais je veux dire c'est quand même hallucinant.
La matière.
Il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que là-bas ils ont eu, ça arrive à tout le monde, hein, ils ont eu un bug, genre écran bleu sur le logiciel.
Point exé.
Tu sais qu'ils l'ont reboot, ils lui ont installé une mise à jour qui n'était pas prévue à distance.
Ça vient niel, les gars.
Le chemin, il tourne autour de Titan, qui tourne autour de Saturne à des années et des années de voyage.
Et je passe un truc juste rapidement. C'est que si vous avez vu, c'était une série Netflix aussi, un truc avec carbone, un truc comme ça. Je
sais oui,
plus.
Ça me dit quelque chose.
Voilà, Altered Carbone. Oui. Ou
Altered comme ça. Carbone.
Et où tu te dis qu'en fait.
Il a dit carbone, il m'a regardé en mode, c'est pas tes frères là.
Non. En gros, Altered Carbone. Et où en gros, le truc, c'est que plutôt que de voyager hyper loin dans l'espace physique, physiquement, genre dans une autre galaxie
on
ou
peut
tout
le faire
ce que
avec
tu veux.
Caméra, en gros.
En fait, ce qui serait plus réalisable, ce serait de transférer ton existence, ta mémoire, tes machins, ta personnalité sur une clé USB, en gros.
Bah,
en
c'est Lucie, quoi.
Et envoyer toutes ces données-là en Wi-Fi dans un autre corps qui se situerait vraiment à des millions d'années. Et que là, en fait...
Que ce soit robotique.
En fait, ça prendrait beaucoup moins de temps. Parce que, comme on dit, plutôt que de faire... je sais pas, 70 ans de voyage mais pour aller jusqu'à tel endroit.
T'amènes une équipe sur place et à partir du moment où elle est sur place, elle peut tout faire.
Mais ça serait pas toi.
Le jour où on arrive à créer sur Terre, c'est ça qui est exceptionnel, un réceptacle de ça, on peut l'installer n'importe où.
Après, tu vois, il faudrait déjà
une
avoir...
fois que tu l'as installé, tu peux envoyer qui tu veux là-bas.
Il faudrait déjà quand même avoir fait le premier voyage pour avoir une
usine.
Mais
tu le fais qu'un.
Tu le fais qu'une fois. T'as un truc comme ça, on
c'est
va dire.
Exceptionnel.
Je sais pas.
C'est trop loin.
C'est
trop
comme loin. Dans Age of Empires, quand t'emmènes un bûcheron.
Oui.
Couper le premier bois et après ils fondent le délire.
Mais
du
c'est
bûcherie.
Intéressant. Dans Alter de Carbone, en fait, ils se déplacent de planète en planète qui sont même pas dans le même bras de la galaxie ou je crois pas. Et en fait, c'est juste parce qu'ils y sont allés une fois. Ils ont monté un truc. En gros, ils font de la terraformation. Ils ont fait des usines et tout avec la même technologie. Et en gros, t'es dans une planète à tant d'années-lumière. Tu transfères ta conscience. En gros, sur une clé USB et Wi-Fi, tu le trans, et comme expliqué avec la sonde Cassini, c'est qu'ils faisaient la mise à jour au lieu de prendre des milliers d'années, bah tu réduis la distance c'est par incroyable. Temps parce c'est que c'est pas de la matière.
C'est peut-être une de mes théories préférées. Wow.
Comme c'est pas de la matière,
c'est
pas mal.
C'est comme c'est pas de la matière
tu,
et que c'est et
tu t'incarnes dans un robot qui t'a mis toutes tes pensées, même, tous tes trucs
ou même,
et tu peux
ou même un robot, rien n'empêche si c'est même pas un robot, c'est-à-dire que si un jour Neuralink de Musk tu comprends qu'en fait si tu télécharges telle impulsion machin dans le cerveau, tu mets un vrai une sorte de clone vide sans conscience et que tu mets la petite microchip avec le truc qui a été téléchargé, tu le mets dans le cerveau, ça fait un nouveau toi.
Une solution intermédiaire déjà, parce que toi tu pars sur transférer la conscience, on est déjà on sera tous scannés depuis des siècles, mais tu dis déjà ton délire 3D là. Ton truc VR, je sais pas comment on appelle ça. Je suis vraiment un boomer.
L'Apple Vision
et
Pro.
Et là-bas, t'envoies, là-bas c'est n'importe où, t'envoies des robots et vamos.
Oui,
tu
oui,
guides.
Oui.
Et déjà, t'as une expérience. Alors, ton esprit n'est pas là-bas, mais déjà, t'as une expérience. Hein.
Mais ce qui serait, quand j'adore. Je dis vraiment la conscience, parce que comme on parle là, Musk veut transférer les consciences sur les ordinateurs, etc. Et que, bon, on sera mort avant que ça arrive, je pense. Mais t'imagines que dans le futur, voilà, c'est ça. On aura envoyé un vaisseau sans humain avec des robots qui arriveront à fabriquer d'autres robots pour faire une usine de robots, en gros.
C'est la citation de Star Wars, des machines qui créent des machines.
Voilà. Et qu'en gros, nous, sur Terre, à ce moment-là, on aura développé une technologie pour dire, bah, écoute, on transfère ta conscience dans des ondes, les ondes sont envoyées vers un robot.
T'imagines le CD-ROM de
Mais concrètement, je trouve ça tellement pas du tout improbable.
Mais c'est pas du tout improbable.
C'est pas du tout improbable. C'est quand probable. Tu commences à voir, je sais pas si vous avez vu cette semaine déjà, le Kemé qui a plus de bras, plus de jambes, là, qui a réussi à jouer aux échecs avec son cerveau.
Comme Pone, hein, qui fait de la musique alors qu'il a plus rien.
Tu commences à traduire les impulsions, je sais pas comment on appelle ça.
Électromagnétiques.
Sauf que là, t'imagines que si tu transfères le truc juste avant qu'on te mette en sommeil, la conscience que t'as moment où tu rentres dans la machine, tu repars au même moment, t'es transféré dans un truc dans une autre galaxie.
Il est là le vrai.
Moi je me recharge avant vos miens en rire.
C'est théoriquement possible. Et donc t'auras fait le voyage sans avoir eu la sensation de faire le voyage.
Oui, mais le premier voyage.
Mais ce sera dans.
Déjà...
Voilà.
Oh là là, je vous rappelle qu'on n'arrive toujours pas à aller sur Mars, qui est déjà une distance ridicule. Accessoirement, le meilleur truc. Et oui, Sam, on a failli faire une émission sans le citer, mais je vais le citer pour ouvrir sur ça. Thomas Pesquet dit un truc très vrai. Il a dit sur Mars, parce qu'évidemment il aimerait bien faire tous ces trucs-là. Oui, c'est vrai. Il a dit sur Mars, il a dit il y a deux facteurs qu'on ne peut absolument pas.
La Poste est allée là-bas.
Imaginez. C'est la question premièrement de ce serait le premier voyage aussi loin.
Eh oui.
En perte de vue de la Terre et ne plus voir la Terre.
Quasiment plus la Terre. Quoi.
Et moi je vous mets là-dessus. Moi j'imagine.
Ça à dire l'autre con.
J'imagine toujours comment ça s'appelle James Webb, le télescope là qui donne des images dingues. Ou encore un truc qu'on a envoyé très très loin.
Hubble. Non pas Hubble.
Non, Hubble est moins bon que Webb.
Il y a un truc qu'on a envoyé qui est déjà dans la ceinture extérieure du système solaire.
Discovery, je crois que Discovery a passé.
Curiosity, non ? Ah non, il a déconnecté.
Discovery, il me semble qu'il a été lancé dans les années 70.
Peregrine aussi.
A passé il y a quelques années là. À passer Pluton.
Ouais, c'est-à-dire
qu'il est hors.
Et on a une limite de Wi-Fi ou pas? En termes de sait jusqu'où ça peut aller.
Là, on l'a perdu.
Là, on l'a perdu.
On capte déjà pas dans le Larzac, alors.
Mais juste, faites un exercice de pensée.
Là, on l'a perdu, mais c'est à cause de la technologie embarquée dans Discovery.
C'est ça. Imaginez qu'il y a, là, il y a une capsule dans ce truc, il y a une capsule où il peut y avoir un humain. On oublie les questions de bouffe et autres.
Oui.
Juste, vous imaginez dedans?
Non, non.
Mais écoute, voyez le vertige que c'est
claustro,
que de vous dire je pars.
Même Thomas Pesquet, moi, on se fout de sa gueule, mais en vrai.
Et ne serait-ce que moi, je pense aux futurs hommes qui iront sur Mars.
Ah, les hommes.
Ou même sur la Lune, une fois que tu es sur la Lune. Mais en Mars, je trouve ça encore plus impressionnant parce que tu ne vois plus la Terre. Sur la Lune, tu la vois. Tu vois l'objectif. Mais sur Mars, tu ne la vois plus. Tu sais pas si un jour tu arriveras à repartir. Mmh. Moi, seul sur Mars, au-delà
de tu vas pas tout seul.
Au-delà du délire. Oui, mais
tu vas
imagine,
à 20 ou 30,
imagine,
même à 3 techno. Oui, d'accord, mais au moins
déjà à 3,
tu,
ouais.
Tu crées une communauté, je veux dire.
Et t'imagines
tu peux bien baiser, ouais, avec 30, ouais.
Oui. Mais comme vertige. Dans le film Supernova, ça s'appelait. Ce n'est pas Supernova.
Ouais, je l'ai vu.
Un anard incroyable.
Je l'ai vu.
Et à la fin, en fait, il reste un pod pour deux gars en vitesse lumière.
Mais dis pas la fin.
Non, mais
non, c'est un pod pour deux, en fait. Ils se font plaisir.
Une soirée normale.
Et la fin est géniale, elle est fucked up, mais en gros ils doivent se foutre à poil dans les pods parce qu'il faut dans la machine tu dois être à poil.
On en est
et donc ils sont en vitesse lumière à deux dans le pod et en fait quand ils ressortent la nana est tombée enceinte. Il était improbable ce film.
Mais chérie, t'imagines c'est... Christian oui. Clavier. Mais chérie, mais je l'ai pas touché.
Mais je te jure, on était en orbite.
Voilà, on est passé de Newton à ça.
Et vous savez que si vous allez à la vitesse de la lumière, ce qui est strictement impossible.
Mais comment ça on sait pas, on sait pas le faire.
C'est des chaussures de ouf.
Impossible. Aujourd'hui.
Globalement, c'est impossible non, déjà de l'atteindre parce que tu peux physiquement pas aller à la vitesse d'un photon. Et accessoirement, pour être très prosaïque, pour arriver ne serait-ce qu'à 1% de la vitesse de la lumière, il faut plus d'énergie que ne peut en avoir
c'est
le système solaire.
Disais,
ça n'a aucun sens.
Le truc plus probable, c'est de transformer l'information en signal lumineux en lumière. Cette lumière, elle peut
la
aller
fibre.
À la vie. Voilà.
La
mais ce que je voulais dire, c'est que globalement, si tu arrives, ce qui n'existe pas, à aller à la vitesse de la lumière, toi, au-delà du fait que tu serais broyé par l'accélération et le temps n'existerait quasiment
mais c'est
pas. En tout cas, toi, tu aurais ton vieillissement biologique, mais par contre, autour de toi, tout serait, mais en fait, à la demi-seconde où tu fais la vitesse de la lumière, tout a des milliards et des milliards et des milliards d'années autour de toi.
En comparaison, la galaxie la plus proche de nous, est à 2,5 millions d'années-lumière.
Andromède.
Et si on part tôt, on peut les faire.
Donc c'est-à-dire que si tu vas à la vitesse de la lumière, tu mets déjà 2,5 millions d'années
pour y aller. Ouais, mais à un moment, il y a un truc qui
va
pas.
Et vous savez que il y a un truc qui va pas dans le système.
Something's wrong.
Et Andromède, c'est
trop big.
C'est Andromède hein, dont on parle.
Oui, oui.
Andromède va se fracasser dans la Terre. C'est pour ça que petit à petit, on la voit de mieux en mieux parce qu'ils vont se collapser. Et ben tu sais c'est quoi le nombre de collapses qu'il va y avoir ? Zéro.
Oui.
C'est tellement espacé.
C'est tellement
espacé. Ah oui,
les galaxies,
okay.
Qu'il n'y a quasiment aucune chance, non seulement qu'il y ait le moindre truc qui se rencontre, mais en plus que ne serait-ce qu'il y ait des changements de gravité. C'est tellement
mais la nature est quand même trop bien faite pour être due au hasard.
Je trouve ça exceptionnel. Là, les théories qu'on a développées aujourd'hui.
Commencez cette phrase-là pour finir par en un peu plus près des étoiles, moi ça va me flinguer.
Non, on a dit une autre.
Ah oui.
On a dit une autre. Bah oui, on a dit une autre. T'avais qu'à écouter l'émission. Merci beaucoup parce que vous nous avez nourris.
Merci à vous. C'était ma première conv et j'ai trouvé ça très intéressant.
C'est pas aussi bien que l'émission de départ, mais
non. Mais bon,
oh, c'est un spin-off sympa.
Ouais, c'est
un spin-off
non,
très sympa.
Merci à tout le monde de votre fidélité, de vos remarques extrêmement chaleureuses sur les épisodes précédents de la conv,
qui
vous ont un peu ouvert à la réflexion. Que ce soit le bonheur, que ce soit les aliens. Enfin, on a fait des trucs sympas quand même.
Et je sais pas toi, Wissem, mais moi, j'ai un peu l'impression, moi qui ai raté ma vie de professeur, j'aurais toujours aimé l'être. Et bah, un prof, en général, on dit qu'il a réussi sa carrière quand il a donné le goût de sa matière à au moins une personne.
Ouais,
du goût là.
Ouais, bah toi, t'es un bon professeur. Globalement, moi, je considère que si de cette émission ressort quelqu'un qui a juste eu la curiosité ou la flemme d'écouter. Et qui va s'intéresser aux étoiles, il va regarder un documentaire,
vraiment,
un regard sur l'espace sur YouTube, c'est en plus très esthétique, c'est très sympa. Mais ne serait-ce que regarder
ça.
Ce qu'on va faire,
c'est qu'en story, on va mettre
des
recos. Donc vous allez faire des recos là.
Et des rocos aussi, des soupes.
Vous allez faire des recos, vous allez l'envoyer à qui fait les stories. C'est toi
les équipes. Officiellement,
c'est Jason.
Vous envoyez aux équipes et les équipes mettront en parallèle du lancement de la con mercredi. Ils mettront une liste de choses à regarder pour aller plus loin.
Ouais, voilà. Okay.
Il faut que vous fassiez la liste des trucs.
Interstellar, faut comprendre pour comprendre si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez
Interstellar, on mettra des docs aussi Arte, des trucs pointus, et vous prenez la liste, vous écoutez l'émission, après vous allez voir les documentaires
allez,
pour
y a
aller
un peu
plus
de
loin.
Boulot pour Alex et moi. Allez,
voilà. Non,
allez.
Mais c'est bien.
Moi,
c'est
je vais
bien,
juste mettre
bien.
La chaîne Un regard sur l'espace. C'est beau, pédagogique, et en plus ça t'endort, tu peux le regarder.
Et
15
on va lancer un ringard sur l'espace très bientôt. Ça sera
toi Pesquet en orbite, Fabien Lecoeuvre en astronaute, tu sais.
Un ringard.
Oh chier, elle est grosse, putain.
Sur ma tombe, Il y aura une bosse au niveau de mon orbite. Qui t'en a pesqué.
Au niveau de mes boules de pétanque sur le drap.
Le drap, il aura une petite trace de... Oh. C'est Uranus qu'on aura frotté sur l'espace-temps.
Putain, c'était bien jusque-là. Oui,
mais t'as vu, le poids d'entrée était oui. comme ça. Ouais. Ensuite, il y a une heure de c'est niveau CNRS, ça. Ouais. Bon, une heure de CNRS.
Moins, et là, au moins CNRS.
D'un coup, il y a une accélération finale pour sortir de l'orbite.
Pas de l'orbite, revenir à leur face.
Pour sortir de l'orbite.
Sortir de l'orbite pour finir dans le cul. Oh.
Voilà.
Absolument.
Ça, c'est ça ton problème, toi. Toi, c'est ça ton problème. Non, merci d'avoir été avec nous. On se quitte avec une de mes chansons préférées de tous les temps. Nile Rodgers.
Ah,
Nile Rodgers, Sheila.
Ah, bien sûr.
Spacer, que j'adore.
Ligne de basse exceptionnelle.
Donc, non, mais Nile Rodgers.
Non, mais bien sûr. Incroyable. Tout est exceptionnel. On écoute Spacer.
Nile Rodgers.
Et on se retrouve la semaine prochaine dans Vaut mieux en rire, donc dès ce week-end, hein. Et la semaine prochaine pour la conve. Et ça va être une conve énorme.
Quoi sur l'équipe de France et le Ramadan.
Non, ça va être une conve énorme encore parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, on se régale.
Ça veut dire qu'il sait pas encore sur quoi.
Si on a déjà une liste, on a une pré-liste.
Mais parce qu'on ménage un peu le.
J'ai un peu l'impression que ce serait bien que tu sois là la semaine prochaine.
Pourquoi
son sourire, je sens que ça va être un sujet qui
non,
peut.
Mais,
tu veux parler d'Amat.
J'ai toujours dit, je me bats sur les gens qui sont disponibles pour ensuite caler un sujet. Donc là, je sais pas qui viendra et je déciderai le sujet quand je saurai. Ouais. Mais il y a plein de choses qu'on pourra raconter. Bon, je vous remercie d'avoir été avec nous, chers amis, autour
merci
de la table.
À vous tous.
Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Con. Merci à vous.
La Conve de Vaut mieux en rire.